Cet amendement qui donne à tout Américain le droit de posséder une arme.
Je ne pense pas que ça donne le droit à tout Américain de posséder une arme. Le second amendement, tel que moi je le dis et tel que je l'entends, et tel que la plupart des juristes l'entendent également, c'est que ça donne le droit à une milice bien réglementée d'utiliser une arme. Alors ça veut dire quoi bien réglementée? Ce que nous voyons dans la rue, ce n'est pas forcément réglementé. Donc, moi, je pense que la question là, il y a le droit à l'arme, le droit au port d'armes dans la Constitution, c'est prévu, mais ça doit être réglementé. Et ce qui arrive aujourd'hui, moi, je pense que c'est un problème de manque de réglementation.
Alors, manque de réglementation, là, vous parlez du Congrès ou du Sénat, c'est eux qui doivent réguler ce port d'armes, cette
Absolument.
Possession d'armes, mais rien n'est fait. Pourquoi ?
Absolument. Mais ça, maintenant, moi, je pense, je le disais déjà dans l'émission précédente, moi, je pense que c'est là, on a une grande organisation qui est opposée à la réglementation des armes. Je pense ici à National Rifle Association, NRA. C'est cet organisme-là qui est là pour l'organisation et la défense des droits de ceux-là qui pensent que l'arme est nécessairement utile pour leur protection. Alors, si vous regardez, je pense que la plupart des membres du Congrès sont également membres de cette NRA ou alors soutiennent d'une manière ou d'une autre des actions de NRA. Et avec l'opposition et l'influence de NRA, on ne peut pas avoir une législation bien développée.
D'accord. On va en discuter avec nos auditeurs au cours de cette émission. Nous avons aussi comme invité dans ce programme de l'Amérique et vous, le professeur Franz-Antoine Lecomte. Il est enseignant au Kingsborough College à New York. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous. Et avant de dire quelque chose d'autre, mes salutations fraternelles à Madame Diallo, parce que nous avons tous été éprouvés à New York lorsque ce drame-là a eu lieu. Et en fait, quand même, on a manifesté un peu de solidarité, parce que justement, c'est un mauvais sort qui a été fait, disons, à un minoritaire ici aux États-Unis. Voilà, nous étions tout à fait concernés.
Alors, merci pour votre disponibilité, professeur. Question tout à fait simple. Pourquoi y a-t-il tant de fusillades aux États-Unis? Professeur Lecomte?
C'est une histoire de violence et puis paradoxalement de liberté, et c'est un éternel débat, si vous voulez, sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. D'abord, comme l'a si bien dit l'avocat, et d'abord, il s'agissait de cet article de la Constitution, c'est-à-dire du deuxième amendement à la Constitution qui est effectivement arrivé très vite aux États-Unis depuis 1791, et même à l'époque des pères fondateurs. Et tout le monde insistait sur la nécessité des civils à être prêts à résister aux tentations tyranniques des gouvernements. Donc, alors, ils avaient comme référence à cette époque-là l'histoire anglaise, parce que les rois anglais ont cherché à désarmer les gens. La porte était ouverte, justement, pour un régime dictatorial. C'est ce qu'ils ont voulu éviter ici, aux États-Unis, et il était même permis à cette époque de même, il était prévu qu'on aurait utilisé des armes contre son propre gouvernement, puisqu'il y avait toujours le souvenir de cette révolte contre l'Angleterre à cause de l'augmentation jugée, si vous voulez, injuste des impôts. De plus, les pères fondateurs ne croyaient pas à l'existence d'une armée nationale de métier. C'était pas un concept accepté et partagé entre eux. Et puis, ils voyaient plutôt des milices, c'est-à-dire des milices composées de citoyens prêts à se battre à tout moment. Et ces milices étaient d'ailleurs indépendantes et propres à chaque État. Donc, mais elles pouvaient quand même également être utilisées pour se battre contre l'ennemi venant de l'extérieur. Donc, aux États-Unis, c'est très complexe. Et puis, d'autant plus, il y a une histoire d'idéologie également. C'est-à-dire, on pense que tous ceux qui sont tout à fait conservateurs aux États-Unis, et particulièrement ceux qui font partie du Parti républicain, eh bien bon, ils sont toujours contre les réglementations, ils sont toujours contre, si vous voulez, la vérification de la personne désireuse de porter une arme à feu, et ils sont contre toute réglementation, contre tous les permis. Donc, il y a eu des sommets contre la violence des écoles, après, disons, les tragédies qui ont commencé à pleuvoir ici aux États-Unis sur les écoles. Il y a eu beaucoup de mouvements après de Brady Bill. Ce sont toutes des activités qui exigent beaucoup plus de vérification de toute personne désireuse de porter une arme à feu.
Mais, justement, professeur.
On est toujours contre la vérification, et ceux qui ont des dossiers criminels, eh bien, ne devraient pas avoir, si vous voulez, des armes à feu. On a
alors,
d'essayer de lutter contre l'immunité
professeur Lecomte,
que le Congrès a accordée aux vendeurs d'armes à feu, c'est-à-dire aux manifestants.
Professeur Lecomte, dites-moi, avec tant de meurtres, tant de fusillades, pourquoi cette loi, cette réforme reste tant controversée?
De se procurer des armes à feu, le mieux serait de restreindre, de limiter la circulation, le transfert et la vente d'armes à feu dans des manufactures et même à l'Internet. Et puis, ceux qui ont des dossiers, par exemple, de violence au foyer, les malades mentaux, en fait, c'était des gens qui auraient dû être vraiment passés au peigne fin. Parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle aux États-Unis le transfert des armes à feu.
Alors, professeur,
exemple, quelqu'un qui a un casier vierge une arme à feu et la passer à une autre personne à dossier.
Voilà,
on va
développer tout ça au cours de cette émission. On a un auditeur au bout de la ligne. Il nous appelle du Burkina. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous avez un mot à dire sur ce débat des armes et des fusillades aux États-Unis?
Oui, d'abord, je vous appelle de Bamako.
Autant pour moi, Bamako. Donc.
Quand même, je m'incline à la mémoire des 14 victimes et prompt rétablissement quand même aux blessés. Moi, je crois que c'est quand même un problème quand même complexe. Aux États-Unis, voilà, le port des armes quand même n'est pas interdit. Alors que l'Amérique quand même, il y a le melting pot vraiment aux États-Unis. Il y a toutes les races qui se trouvent là-bas. Donc, il n'est pas facile quand même de les contrôler. Moi, à mon avis, le gouvernement américain doit faire quand même un amendement quand même de limiter vraiment les ports des armes. Sinon, il n'est pas facile quand même de contrôler tout ça. C'est cela qui va essayer quand même d'amortir un peu les fusillades. Sinon, par exemple, si vous prenez par exemple l'exemple sur la Chine aussi est plus peuplée. Mais ces fusillades quand même n'existent pas en Chine parce que le port des armes quand même n'est pas autorisé là-bas. Moi, je crois que les Américains doivent limiter quand même le port des armes, quand même pour le bien-être quand même de la population.
Voilà, merci pour votre contribution. Madame Kadiatou Diallo, vous qui parcourez les États-Unis depuis le décès tragique de votre fils, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on vous dit, ces gens que vous rencontrez, ces législateurs, ce beau monde que vous rencontrez, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Eh bien, le forum qu'on a eu hier, on a discuté de ça. Et d'ailleurs, je suis avec des groupes de mamans qui ont perdu leurs enfants, soit par la violence générale ou bien par les bavures policières. Donc, je les ai demandé aujourd'hui quel est le message qu'elles voudraient que je transmette à notre audition ici, mm-hmm. aux auditeurs. Mm-hmm. Et elles ont dit qu'elles sont concernées par le fait que c'est très facile d'avoir des armes. Et ensuite, pour la vérification des malades mentaux. Mm-hmm. Parce que les gens qui ne sont pas capables de fonctionner comme tout le monde ne doivent pas être armés. Ils ne doivent pas avoir accès à des armes. Donc, surtout à l'école aussi, les jeunes qui sont dans les collèges, ils sont là facilement, ils peuvent venir avec leurs armes et abattre leurs amis. Donc, ça, c'est une situation qui inquiète tout le monde. Mais en plus, elles s'inquiètent aussi parce que la police est tellement dure avec les minorités ici.
Je voulais justement évoquer la question de la police.
C'est facile aux jeunes d'avoir accès aux armes. Ça, on ne sait pas. C'est une situation très délicate. Tous les parents, les éducateurs, les politiciens, tout le monde doit avoir un consensus pour vraiment trouver une situation à ce problème. C'est un problème général.
Madame Diallo, il n'y a pas que les individus. Il y a la police qui tire également sur des gens.
Bien
C'était
sûr.
D'ailleurs le cas pour votre fils. Là, on ne va pas dire que c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire.
Parce que vous savez, quand on avait décrit Amadou à la presse, on disait « on arm West African immigrant ». Ça mm-hmm. veut dire qu'il n'était pas armé.
Armé du tout, oui.
Mais dans le monde de Amadou, il n'a jamais connu l'arme. Il n'a pas vécu là où il y avait des armes. Mm-hmm. Donc ça, c'est un problème. La police est là et vraiment, ils brutalisent les gens, mais Par contre, il y a tout un monde qui est là, qui s'arme et qui prennent la justice dans leurs mains. Il y a des gens qui ne sont pas équilibrés, qui sont malades, des malades mentaux, et ils viennent, ils s'arment. C'est pas possible.
Okay.
Comment on peut laisser la société, cette génération actuelle, avoir accès à des armes comme ça? Et comment on peut les brutaliser par... Je parle de la police aussi qui abat les enfants facilement comme ça. Ça, c'est un problème qui nous concerne.
Ça concerne évidemment tout le monde. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Alors, comment vivez-vous le phénomène de fusillades à répétition aux États-Unis? C'est la question de ce vendredi dans l'Amérique et vous. Nous vous donnons la parole. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Nous avons trois invités. Nous avons Maître Joseph Fa. Je reviens vers vous. Comment les immigrés africains vivent ce genre de phénomène, puisque la plupart venant d'Afrique, par exemple, ils ne sont pas habitués aux armes?
Mais moi, je pense que pour les Africains, il faut rapidement se mettre dans le contexte américain et comprendre que l'arme peut sortir de la gauche ou de la droite. Ce n'est pas comme en Afrique où nous ne sommes pas habitués aux armes dans la rue et il n'y a que les brigands qui ont accès aux armes ici. Chacun, même les gens qui sont illégaux, ont les armes. Vous avez vu la tuerie de Californie où quelqu'un qui était rapatrié dans son pays est rentré en cachette et a utilisé l'arme d'un policier pour tuer une citoyenne américaine. Donc les armes, ça court les rues et je pense que les Africains sont conscients de ce problème et prennent les mesures appropriées pour se protéger. Moi, je pense. Quand moi je regarde la situation des immigrés, le port d'armes peut arriver, ou bien la situation avec les armes peut arriver par la police, comme Mme Diallo le soulevait tout à l'heure. Et vous, si vous regardez bien les statistiques, la plupart des tueries venant de la police, les victimes sont des Noirs.
Tout à fait. Donc,
et moi je pense, comme je l'ai dit dans certains de mes séminaires aux citoyens, il vaut mieux se soumettre aux ordres de la police, ne cherchez pas à riposter avec la police au départ. Ça, c'est la meilleure façon de s'en sortir vivant, parce qu'ils sont en position de force. Vous avez vu le gars de Chicago et qui a été tiré dessus 16 fois. C'est vrai que le policier est en train de subir des procédures judiciaires pour déterminer sa culpabilité, mais vous avez vu, il n'est plus là. Il est décédé, 16 balles, la famille pleure. C'est pas bon. Donc moi, je pense que les Africains sont assez conscients et il vaut mieux être calme de son côté, respecter la police et vous allez vous en sortir vainqueur. Après ça, vous pouvez demander, vous pouvez saisir la justice pour revendiquer la violation, la rectification de la violation de vos droits.
Voilà. On a Alphonse Boisquier au téléphone. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir.
Alors... Oui, allez-y.
Moi, j'impute la faute à la population américaine. Je trouve cette population comme si elle est apathique, elle ne fait rien. C'est elle qui est victime, c'est elle qui subit le sujet. Est-ce qu'il n'y a pas une attitude qui est autorisée au peuple américain de se manifester lorsque le Congrès bloque la réforme sur le port d'armes, sur la détention d'armes? Lorsque les qui s'opposent à cette réforme, est-ce que le peuple américain qui subit, qui est victime de ce sujet, est-ce qu'il ne peut pas revendiquer, même pas suffisamment marché? Je ne sais pas si comment le peuple américain ne réagit pas.
Alors, la population parfois essaie de réagir, mais il y a une législation qui doit réguler tout ça. Et du côté du Congrès ou du Sénat, les choses ne marchent pas toujours comme on veut. On a cette réaction d'Ibrahim Koivoki. C'est regrettable de voir une telle atrocité se passer dans un pays à caractère continental. Tant que les armes s'achètent comme du pain, impossible d'éviter l'ampleur des fusillades. L'autorité doit revoir cette loi légalisant la possession des armes pour ne pas que le pire arrive. Qu'on sache que la population américaine vit avec le danger aujourd'hui. Professeur Lecomte, est-ce qu'il y a espoir quand même qu'un jour la possession d'armes aux États-Unis sera régulée?
Bon, c'est-à-dire il faut espérer. On peut pas, ne pas espérer, parce que quand même, mais je dis que d'abord il faudra un changement, c'est-à-dire il faudra certaines mutations, si vous voulez, à la tête de l'État. Par exemple, les membres du Congrès, il faut qu'ils comprennent, c'est-à-dire les responsabilités. Cette histoire de penser, d'avoir une sorte de politique de l'État qui serait minimaliste, c'est-à-dire on se croise les bras et on laisse tout arriver sans vraiment prendre part pour réguler cette société, je crois qu'il faut changer ce concept, parce que ça ne va pas, et particulièrement au Congrès. Et une fois qu'il y aura, disons, cette majorité, si vous voulez, républicaine, assez conservatrice au Congrès, cela va durer. C'est-à-dire, nous avons une majorité au Sénat républicaine, nous avons une autre majorité à la Chambre des représentants républicaine. Donc cela, tout cela doit changer. C'est-à-dire, ceux qui vont voter, les ressortissants, et ceux qui font partie, si vous voulez, des États aux États-Unis, nous avons d'autres élections. Il faudra simplement supporter des gens qui seraient pour un contrôle beaucoup plus rigoureux.
Voilà, un contrôle beaucoup plus.
C'est trop facile de se procurer des
professeur
armes.
Lecomte.
Ça se vend comme des petits pains
professeur
dans la
Lecomte.
Rue. Le mieux serait de restreindre, de limiter la circulation, le transfert, la vente d'armes à feu par les manufactures et l'internet.
Professeur Lecomte.
Ce qu'il faudrait vite faire, c'est
professeur
Lecomte,
est-ce que vous m'écoutez?
De retirer cette immunité qui est accordée à des manufactures qui fabriquent des armes à feu et puis des armes de guerre qui
voilà,
sont
voilà. On va revenir sur professeur Lecomte. On va revenir sur vous tout à l'heure. Madame Diallo, vous avez la chance quand même d'avoir été, on va dire, des deux côtés. Vous avez votre fils qui est parti. Vous avez lancé cette fondation. Est-ce qu'il vous est arrivé de parler aux sénateurs, à tous ces législateurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent, eux? Pourquoi les choses ne changent pas?
Oui, c'est difficile de changer parce que, vous savez, c'est une puissance, c'est deux puissances qui sont en train de lutter. Et puis, il y a les, comme M. Lecomte vient de mentionner, les manufactures des armes, ils ont un lobby très solide. Hein? Ça ne va pas être facile, mais je pense avec le public, je pense qu'il y aura un changement. Surtout, il y a une élection bientôt dans ce pays. Je pense que si vraiment la population est consciente de ce qui se passe, ils vont voter pour le chef d'État qu'il faut, ou bien, bon, c'est ce qu'on a à espoir. Sinon, bon. Dans le cas contraire, ça va être la même chose. Il y a un monsieur qui vient de parler, tout récemment, là, j'ai écouté, qu'on parlait de la police, il faut essayer d'obéir.
Tout
je
à
pense
fait.
Que c'est l'avocat.
C'est l'avocat Joseph Fayez.
Oui, d'accord, je suis d'accord, on peut obéir à la police, on peut faire tout, oui, pour sauver notre vie, parce qu'il n'y a pas de chance quand on te tue, tu ne peux pas aller prendre un avocat et poursuivre. C'est fini, quoi, c'est la fin.
Ouais.
Mais par contre, la nouvelle technologie aujourd'hui, ça aide, parce que vous avez vu le cas de Ferguson, vous avez vu le cas de New York avec Eric Garner, vous avez vu
tout à fait.
À Baltimore. Donc, avec la nouvelle technologie, nous avons l'espoir d'exposer
voilà.
Les
Madame,
policiers
Madame,
qui sont en train de prendre la justice
Madame,
en leurs mains.
Madame Diallo, en un mot, votre mot de la fin, on tire à la fin de cette émission. On a quelques secondes seulement.
Oui.
Un mot de la fin?
Oui. En un mot, bon, je remercie l'audience et je pense que nous avons beaucoup à faire et j'ai l'espoir. J'ai l'espoir avec l'éducation, avec les débats de ce genre. Je vous remercie.
Vous gardez espoir. Maître Joseph Fah, votre mot de la fin en quelques secondes, s'il vous plaît.
Moi, je pense que la Cour suprême, il revient à la Cour suprême d'interpréter la signification du deuxième amendement de la Constitution des États-Unis, et c'est cette amendement-là qui pose énormément de problèmes aux États-Unis. S'il faut changer la Constitution ou alors réglementer les armes, il faudrait d'abord qu'on comprenne exactement ce que ça signifie, le deuxième amendement. Donc je pense qu'il nous faut un cas au niveau de la Cour suprême pour...
Merci. Professeur Lecomte, en un mot, votre mot de la fin?
Il faudrait peut-être amender la Constitution des États-Unis et puis pour les autres qui vont voter bientôt, pour faire fondre la majorité au Congrès, la changer,
je vous
que
remercie.
La majorité des conservateurs, si vous voulez, soit perdue, et puis voilà, l'Amérique, on va vivre
merci.
Un peu mieux.
Merci, nous sommes arrivés au terme de cette émission de l'Amérique et vous, John Lyndon, était à la présentation avec le soutien et la collaboration de toute la rédaction. Lionel Gaïma était à la production, assisté de César Franklin. Nous vous disons merci d'avoir suivi et restez fidèles au programme de VO Afrique.